Il est 18h17, on y va, non ?
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's eat his and in the house. I
am Radio Rosa
de Paris. Radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, ensemble, on se penche sur ce synode qui a tant fait parler de lui. Il concerne l'Amazonie, mais il met le pied dans la porte du célibat des prêtres. On s'interroge ce soir sur un effet uniquement réservé à une certaine église ou un coup de pied, justement, dans la porte de l'église. On y vient avec notre premier invité. Le Bruit du Monde est en Côte d'Ivoire ce soir dans le plus grand marché de faux médicaments. Et Estelle Schmitt, elle, nous parle de pluie diluvienne au Soudan du Sud et d'une source d'énergie inédite. Vous allez voir, ça se passe en Finlande. Passons genre à Julia Foyce. De s'en laisser compter. Elle est là avec une histoire de jeune athlète voilée aux États-Unis. Le Monde à l'envers et Franck Madvon ce soir où comment les Kurdes trahis par les Américains ne lâchent pas l'oncle Sam trop vite quand même. Et vous verrez pourquoi. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Serbès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Isabelle de Gaulmin.
Bonsoir Fabienne.
Rédactrice en chef au journal La Croix. Isabelle en duplex depuis France Bleu Provence. On les salue, nos amis de France Bleu. On a bien compris, Isabelle de Gaulmin, que on n'allait pas ordonner désormais des prêtres mariés partout dans l'église. On a beaucoup parlé de ce synode pour l'Amazonie. On a bien compris qu'il y avait une géographie particulière et une réponse particulière, mais qui fait quand même beaucoup réfléchir ces derniers jours. Et quand je lis, enfin, ce que je comprends moi, c'est que l'église a besoin au fond de règles adaptées à chaque situation. Est-ce que ça veut dire que désormais on peut proposer des règles à la carte au fond dans l'église et que c'est peut-être ça la grande nouveauté?
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire que d'ailleurs le pape François l'avait dit dès qu'il est arrivé à Rome en 2013, on peut pas gouverner l'église pareil partout dans le monde, l'église c'est 1,2 milliard de personnes sur toute la planète, et c'est vrai qu'il y a des spécificités, donc là ils ont bien cerné les spécificités de l'Amazonie, où il y a très peu de prêtres, où il y a des communautés qui passent un an, voire deux ans sans avoir de prêtres, donc c'est-à-dire sans pouvoir avoir l'Eucharistie, la communion, et c'est pour ça qu'elles ont demandé, les évêques ont demandé à ce qu'on puisse ordonner des hommes mariés pour répondre aux besoins de ces communautés.
Mais si c'est à la carte, est-ce que ça veut dire, si on élargit un petit peu, qu'au fond, aucune des règles de l'Église n'est écrite, puisqu'on peut s'en affranchir au cas par cas? Ça veut dire que ce célibat n'est pas un dogme, donc puisqu'on l'autorise ici, pourquoi pas ailleurs? Est-ce que l'idée qu'on ouvre une brèche ici quand même peut faire réfléchir pour la suite?
Ah bah c'est évident, c'est-à-dire que là, attention, on est effectivement dans des règles qui ne sont pas de l'ordre du dogme. Le célibat des prêtres, ça n'a jamais été un dogme dans l'Église catholique, c'est une règle
disciplinaire. Vous allez nous rappeler d'ailleurs, voilà, ça date d'il y a un petit millier d'années, un peu moins.
En fait, c'est il y a à peu près 1000 ans, et puis ça a été beaucoup confirmé par le Concile de Trente au XVIe siècle, où en fait on a dit qu'il fallait que les prêtres soient célibataires pour des raisons souvent de morale, et puis des raisons d'économie, parce que en fait les prêtres s'enrichissaient, ils enrichissaient leur famille, et finalement l'argent passait de l'Église au privé. Donc c'était des conditions historiques données, qui maintenant ne sont plus bonnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que jusqu'à il y a très peu de temps, hein, 2012, on ne pouvait même pas aborder ce sujet à Rome. C'était un tabou, il y avait un évêque qui l'avait abordé une fois, il s'était fait crosser ensuite. Donc là, c'est quand même de fait une brèche au sens où on peut en parler, on peut dire qu'il y a quand même des régions dans le monde où c'est une nécessité. Alors, est-ce que ça va venir jusqu'en Europe? Peut-être oui, peut-être non. C'est vrai qu'en Europe, il y a déjà beaucoup de diacres, on ne le sait pas beaucoup. En France, vous avez 2800 diacres hommes mariés, alors qui ne peuvent pas donner la communion, mais qui peuvent faire plein de choses dans l'église et qui sont souvent responsables de communautés. Donc voilà, on s'achemine sans doute vers une pluralité de formes de prêtres dans le monde.
Mais est-ce que, au fond, ça marche dans quel sens au fond, Isabelle de Gaulmin? C'est-à-dire, est-ce que le pape voulait mettre cette affaire sur le tapis et il profite du synode en Amazonie pour entrer par cette porte-là, ou est-ce que c'est ce synode réellement qui ouvre cette porte?
Alors, je pense que le pape, il a un problème en Amérique latine, c'est les évangéliques. Et notamment en Amazonie, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que autrefois vous aviez beaucoup de communautés de base catholiques, et maintenant, ce sont des temples protestants et évangéliques généralement. Donc voilà, ce qu'il veut, le pape, à mon avis, c'est répondre à cette espèce de fuite des fidèles vers les églises évangéliques. Et il se dit, le seul moyen d'y répondre, c'est effectivement de recréer des communautés un peu partout. Donc, il faut qu'on ait des responsables de communautés, que ce soit des prêtres hommes mariés, voire même des femmes, parce que on a dit qu'il pourrait y avoir des femmes chefs de communauté dans ce synode.
Ouais. Donc on n'a pas été très loin sur les femmes quand même. Il n'y a pas de diaconat au féminin, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est pas dans le document final.
Alors, les pères synodaux ont quand même demandé à ce qu'on réexamine la question. Oui, c'est vrai que ça va lentement pour les femmes. Ceci dit, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on a dit, en dehors des prêtres, il peut y avoir d'autres fonctions, d'autres rôles. Il n'y a pas simplement le prêtre d'un côté, les fidèles de l'autre, mais il y a des gens qui peuvent lire la parole, qui peuvent l'expliquer, qui peuvent être catéchistes. Mmh. Et on peut reconnaître tous ces rôles, et notamment pour les femmes.
C'est quand même intéressant de savoir que c'est finalement plus facile, ou en tout cas moins difficile, parce que c'est pas gagné, de faire admettre des prêtres mariés que des diacres féminins.
Oui, c'est-à-dire que l'Église avance assez lentement pour les femmes, ça c'est vrai.
vous disiez effectivement que l'une des raisons pour lesquelles l'Amazonie avait un problème, c'était parce qu'effectivement les territoires sont très étendus, certains fidèles ne voient que très très peu de prêtres, n'ont pas accès à certains sacrements, et donc se tournent vers d'autres églises. Mais est-ce que c'est ça la seule raison? Est-ce que la seule proximité au fond ferait que les gens se détournent des évangéliques qui commencent à avoir une importance grandissante dans tous ces pays-là?
Non, c'est sûr que c'est pas la seule raison. C'est aussi un discours évangélique qui était peut-être mieux adapté aujourd'hui aux problèmes que les gens rencontrent sur le terrain. C'est sans doute ça aussi. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un problème de proximité. C'est-à-dire que l'Église, elle doit être proche des gens. Mmh. L'Église, c'est d'abord des communautés, quelque part, dans des lieux. C'est pas simplement quelque chose qui se passe à Rome. Et c'est ça que le pape François signifie, finalement.
Si on accepte, on verra bien jusqu'à quel point, mais si on accepte d'ordonner des prêtres mariés ou des diacres permanents mariés, est-ce que ça veut dire que en fait, c'est le célibat qui n'est plus un critère. C'est-à-dire que si on extrapole un petit peu, ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire à un candidat à la prêtrise, au moins dans ces régions-là, tu ne seras plus obligé de rester célibataire, ou ce pas-là est très très loin d'être franchi encore?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est quand même derrière tout l'imaginaire autour du célibat dans l'Église catholique, parce que on l'a bien vu avec la crise des abus sexuels. Il y a aujourd'hui un espèce de tabou qui fait que le prêtre est considéré comme pur, comme saint, parce que il est célibataire. Alors, je caricature évidemment, mais il y a un vrai sujet sur le rapport à la sexualité, la pureté dans l'Église. Donc voilà. Alors après, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'Église catholique, comme dans les églises orientales, hein, où on a des prêtres qui sont mariés, on ne n'ordonne prêtres que des hommes qui sont déjà mariés. Donc de façon à attendre un peu qu'ils soient installés. Donc ça ne veut pas dire que les prêtres aujourd'hui ordonnés pourront un jour se marier. On ne n'ordonne que des gens qu'une fois qu'ils sont mariés.
Est-ce que vous avez le sentiment quand même que, j'utilisais cette image tout à l'heure, est-ce que le pape est en train de mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud? En gros, il est en train de tester, y compris autour de lui, y compris parmi les gens les plus conservateurs autour de lui. Voyons si j'admets ça pour l'Amazonie, voilà comment ça va réagir, donc voilà la marge de manœuvre que ça peut me donner. Est-ce qu'il est aussi en train de jouer à ça ou pas, ce pape François?
Oui, en tout cas, ce qu'il teste, c'est l'idée d'une église à plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose que du côté des personnes plus classiques, on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'il n'y ait qu'une église où tout le monde est exactement pareil, la même prière, la même formation, etc. Et lui, ce qu'il est en train de tester, c'est de mettre un petit peu de diversité. C'est compliqué, hein, parce que vous savez, les protestants, ils mettent beaucoup de diversité. Mais ils mettent tellement de diversité que finalement, ils explosent et qu'ils ont beaucoup de mal à trouver une unité. Bon, les orthodoxes, ils ont une forme d'unité, mais qui est très reliée au pays, très, très locale finalement. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour une église, pour une religion d'ailleurs, parce qu'on a le même problème avec l'islam, d'avoir à la fois de l'unité et de la diversité partout dans le monde. C'est le problème de la mondialisation finalement.
Et est-ce qu'il s'est fait une religion, lui, le pape, pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'il avance, lui, est-ce qu'on est sûr de ce qu'il pense là-dessus et de ce vers où, jusqu'où il est capable d'aller?
En tout cas, on voit mal qu'il ne réponde pas à la demande des pères synodaux, parce que ça a quand même été voté à la majorité des deux tiers, donc c'est pas mal. C'est lui qui a enclenché le processus, qui a organisé ce synode. Donc, je pense que ça serait pas très cohérent s'il disait non pour la possibilité d'ordonner des diacres, pour les ordonner prêtres, en fait. Donc, je pense qu'il va y aller pour l'Amazonie. Alors, est-ce qu'il va y aller pour le monde entier? Non, mais par contre, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il dit aux pays, notamment, par exemple, aux pays européens, bah, écoutez, prenez-vous aussi en main, faites des propositions qui peuvent aller pour l'Europe, mais qui ne sont pas les mêmes qu'en Afrique ou en Amazonie.
Mais ça existe, des propositions comme ça en Europe? Je pense à l'Église allemande, par exemple, qui n'est pas la plus importante, mais qui, visiblement, de ce côté-là, envoyer quelques perches. Je pense aux Suisses aussi. Donc est-ce qu'il y a en Europe, on peut comprendre ce qui se passe en Amazonie, on peut comprendre certains conservatismes, y compris en Afrique. En Europe, qu'est-ce qui se passe réellement?
Alors oui, ça existe en Europe, effectivement, en Allemagne, parce que l'Église allemande, elle est confrontée à l'Église protestante. Hein. C'est un pays où vous avez à la fois des protestants et des catholiques, ce qui fait que les catholiques allemands, ils voient ce qui se passe chez les protestants, où il y a des pasteurs mariés, des pasteurs hommes, des pasteurs femmes, ce qui leur donne une forme un peu de liberté, ou en tout cas, ils ont moins de tabous peut-être que l'Église de France. C'est vrai qu'en Afrique, c'est pas simplement un problème de dire que c'est une Église conservatrice. Mm-hmm. En Afrique, le problème de la famille, c'est que c'est un problème clanique. Donc si vous avez des prêtres mariés, pères de famille, c'est embêtant parce qu'on peut avoir une forme de retour de patriarcat. Donc c'est pour ça que les évêques africains font très attention à cette histoire-là. Ils disent attention, chez nous, la famille, souvent, c'est plus quelque chose qui rend esclave qu'autre chose.
C'est intéressant ce que vous dites, notamment sur l'Allemagne, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'Amazonie. On a l'impression finalement que l'Église n'est réellement très progressiste que lorsqu'elle est en concurrence, au fond, avec d'autres religions à côté d'elle.
C'est vrai qu'en tout cas ça donne des idées. Et puis en Allemagne il y a toujours eu un mouvement laïque très fort, ce qu'il n'y a pas du tout en France. C'est-à-dire qu'en Allemagne vous avez d'un côté les évêques et de l'autre côté une association de laïcs avec à sa tête un laïc ou une laïque et qui est vraiment à part égale avec les évêques. Donc ça veut dire qu'on n'a pas simplement le clerc, le prêtre et une hiérarchie cléricale, on a aussi une hiérarchie laïque. Donc il y a beaucoup plus de croisements, de discussions. Et en Allemagne, souvent d'ailleurs, les débats sont assez importants. C'est toujours surprenant de les voir. Ils s'engueulent, ils osent dire leurs désaccords, sans doute plus qu'en France.
Qu'est-ce qu'ils pèsent, les conservatismes qui s'opposent à ces changements face au pape François? Est-ce qu'ils pèsent très lourd?
Oui, ils pèsent lourd. On les a vus quand même là depuis quelques années. Ils pèsent lourd en Afrique, ils pèsent lourd aux États-Unis, ils pèsent lourd aussi à Rome. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le pape il fait finalement il les contourne avec cette histoire de synode, parce qu'il a invité des évêques en disant bon ben à vous de finalement de me dire ce qu'il faut que je décide. Donc ça donne une forme de légitimité à ce qu'il va dire. Mais là c'est sûr que on commence d'ailleurs déjà à voir dans différents endroits de l'Europe des gens qui disent oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, on est en train de nous changer l'Église, c'est plus l'Église unie, etc. Donc c'est sûr qu'il y a les gens vont commencer à fourbir leurs armes.
Mais il pèse au point que, parce qu'effectivement, vous le disiez, c'est le pape François qui a défendu, au fond, cette révolution amazonienne, y compris en leur disant, dites-moi ce que je dois décider, mais ça veut dire qu'il accompagne ce mouvement, au fond, est-ce qu'il peut le bloquer tout d'un coup de la même manière?
Non, en fait, il me semble que les catholiques, à la base, entre guillemets, sont tous favorables à ça. C'est-à-dire que vous savez, même en France, dans un certain nombre de villages, il n'y a plus prêtres. Il n'y a plus personne pour enterrer, puisqu'on arrive à la Toussaint. Il n'y a plus personne pour dire la messe. Les gens sont tristes. Ou alors, de temps en temps, on a des prêtres qui viennent d'Afrique et on voit bien qu'il y a un petit problème. On peut pas avoir une France avec des catholiques dont les seuls prêtres sont des prêtres africains. Ça va pas. Les prêtres, ça doit être des gens de la communauté qui expriment un peu les besoins des gens sur place. Donc, je pense que les catholiques de base, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, sont vraiment favorables à ça. Après, c'est vrai que c'est au niveau des évêques et des cardinaux où les gens ont peur, pour des bonnes raisons aussi. Ils ont peur de voir l'Église leur filer entre les doigts, finalement.
Et quand je vous demandais ce qu'ils pesaient, est-ce que ça veut dire que jusqu'à quel point peuvent-ils, eux, s'y opposer? On a même commencé à entendre prononcer le mot de schisme ou des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est aussi sérieux que ça? Est-ce qu'il peut y avoir une réelle scission dans l'Église si on considère que le pape François va trop loin, ou on n'en est pas là du tout encore?
Alors je pense qu'on n'en est pas là parce que le pape François, il a 83 ans et qu'il est âgé et qu'en fait il joue la montre, ces gens-là ils sont en train de préparer l'agenda du futur conclave et donc du futur pape. Ça c'est très clair, avec des alliances, on voit bien, entre des cardinaux de Curie, des cardinaux américains, et c'est ça qui vise. Donc je pense pas qu'il puisse gêner ce pape-là, qui est quand même très populaire, il faut pas oublier ça. Mais en revanche, il prépare le prochain pontificat, et c'est au prochain conclave que va se jouer une partie de l'avenir de l'Église.
On dit que c'est un pape, au fond, très autoritaire, et c'est ce que certains lui reprochent, c'est vrai aussi? Est-ce que c'est l'image qu'il a entre portes fermées, le pape François, ou pas?
En tout cas, c'est un pape qui a une forte personnalité. Autoritaire, je sais pas, parce que c'est quand même le premier pape depuis longtemps qui dit aux évêques, écoutez, venez à Rome, discutez et dites-moi ce qu'il faut faire. Donc ça me paraît pas très autoritaire. Il a remis plutôt en marche ce qu'on appelle la démarche synodale. C'est pas de la démocratie, mais c'est quand même le fait de se réunir ensemble, de discuter et de voter sur des propositions. Donc voilà, c'est plutôt moins autoritaire que ses prédécesseurs.
Voilà, donc on n'y est pas encore. Comment on appelle ça, ce synode, au fond? Est-ce qu'on dit que c'est quasiment une révolution, un vrai tournant? Comment il faut le qualifier, tel qu'il nous arrive aujourd'hui?
Bah pour moi, c'est vraiment un tournant. D'abord parce que on dit qu'il peut y avoir des différences selon les pays. C'est comme vous l'avez très bien dit au départ. Et ça, c'est quand même important pour l'Église catholique, hein, où les catholiques sont très attachés à l'unité. Et d'autre part, effectivement, le célibat des prêtres n'est plus un tabou. Et ça, c'est aussi très important, ce qui veut dire que, à mon avis, on va rapidement voir en Europe s'ouvrir la possibilité d'ordonner des hommes mariés ou des diacres.
Et ce qui nous donnera aussi l'occasion d'y revenir, Isabelle de Golemans. Merci beaucoup, merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
Le bruit du monde, c'est la suite du 18-20. Ça se passe en Côte d'Ivoire avec le plus grand marché de faux médicaments. On ira le visiter ensemble. Avec vous, Estelle Smith, vous nous emmenez en Finlande. Qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux?
Plus précisément avec leurs excréments produits de l'électricité.
Et ben voilà, ça se passe en Finlande. Donc Julia Foyce, pas son genre dans le monde avec une jeune coureuse qui nous rappelle une petite problématique qu'on a un petit
peu
chez nous.
Comme en écho, hein, une athlète américaine disqualifiée parce qu'elle portait un voile et ce alors que rien ne l'interdit. Ça se passe aux États-Unis.
Et ça se passera à 18h50. Franck Madden.
Bonsoir.
Le
Fabienne.
Monde à l'envers. Les cures de Franck ont été roulées dans la farine par les Américains, ça on le sait, mais ils ne perdent pas de vue ces Américains quand même finalement.
Bah oui, et pourquoi donc? On tentera de répondre tout à l'heure.
À tout de suite tout le monde. Moon Martin sur France Inter. Bad news. Enfin, Moon Martin, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça date de 1980 et c'est génial.
Bye.
Le bruit du monde est en Côte d'Ivoire ce soir. En Côte d'Ivoire où plus d'un médicament sur cinq en circulation est faux, mettant en danger évidemment la santé de milliers de consommateurs. Ce business est très lucratif, il génère au moins 20 fois plus d'argent que le trafic de cocaïne. Pour les commerçants qui sont le dernier maillon de la chaîne, c'est aussi un moyen de survie. Amandine Rio nous emmène à Roxy, c'est un quartier d'Abidjan. Nous sommes dans le plus grand marché aux faux médicaments de toute l'Afrique de l'Ouest.
Dans le grouillant marché Roxy d'Abidjan, l'air est chaud et humide, des boîtes colorées sont empilées sur les étals. Ici, des centaines de commerçantes vendent ces produits détournés du circuit légal, périmés, mal conservés. D'autres ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, le gage de qualité des médicaments qu'on trouve dans le commerce. Les clients peu bavards sont attirés par les tarifs. Certains médicaments, comme ceux pour traiter le diabète ou l'hypertension, coûtent 2 à 3 fois moins cher qu'en pharmacie. Les vendeuses sont très méfiantes envers les journalistes, elles craignent moins la police que de perdre leur source d'approvisionnement. Sans micro discret, impossible d'obtenir un témoignage. Nous arrivons à enregistrer le début d'une discussion avec une commerçante. Selon elle, vendre des faux médicaments est le seul moyen de nourrir son mari au chômage et leurs 5 enfants.
C'est un marché qui ne te permet pas de gagner de l'argent beaucoup, mais ça nourrit. Je suis dedans, ça fait 25 ans. J'ai pas de construction, je n'ai pas de terrain, mais ça veut dire que je ne suis pas dehors. Je ne dépends pas de quelqu'un.
D'accord, c'est son indépendance.
Voilà.
Hors micro, on l'interpelle sur le danger des faux médicaments. Elle s'énerve. On m'accuse de tuer des gens, mais on n'accuse pas les fabricants. Les fabricants, justement, des usines chinoises et indiennes principalement qui produisent à moindre coût. Depuis les années 2000, elles inondent le marché africain. Elles ont remplacé les fabricants européens après la démocratisation du médicament générique, pas assez rentable pour être exporté. À 100 mètres du marché, une vraie pharmacie reçoit parfois des clients de Roxy. Docteur Nguessan, préparateur.
Effectivement, nous sommes situés juste en face de Roxy. Souvent, nous recevons des clients qui viennent de là-bas, qui viennent vérifier l'exactitude des produits qu'on leur présente là-bas. Il y a d'autres qui ont honte, par contre, il y a d'autres qui disent « j'ai pris ça au marché, juste à côté ». Donc, je suis venu pour vous demander comment est-ce qu'on le prend, on prend ce médicament. Tout ce qui vient de l'extérieur, on exige qu'on nous présente un ticket de caisse, une ordonnance. On doit vérifier les emballages, qu'il y a vraiment des étiquettes. Et dans le cas contraire, on les renvoie immédiatement.
Cette cliente venue acheter des médicaments pour son enfant malade est très remontée contre les vendeuses de Roxy.
Celles qui vendent, elles ne connaissent pas. Elles ne savent pas comment prendre. Ce sont des gens illettrés qui vont. D'autres, elles ne comprennent pas le français. Mais elles vendent quand même. Ça fait que la vie de la personne est en danger. Puisque ces mecs qui vendent ne comprennent pas le français. Comment la personne peut connaître que ce médicament c'est pour mal de tête ou bien c'est pour maux de ventre? Elle ne connaît pas. À la pharmacie, on peut te montrer comment utiliser le médicament. Et puis c'est bien conservé. Cela.
En revenant de Roxy, nous faisons analyser plusieurs boîtes de faux médicaments au docteur Hassan Koulibaly, expert pharmaceutique à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.
Alberon, qu'est-ce que c'est ça?
Alberon, apparemment c'est de l'albendazole, 400 mg, c'est un déparasitant à base d'albendazole. Alors la caractéristique première déjà qui me déplaît, je vois qu'on a représenté des vers sur les boîtes. La notice est commune à la boîte de 200 mg et à la boîte de 100 mg.
Donc ils ont voulu faire des économies.
En plus les caractères d'imprimerie sont pratiquement illisibles. J'aurais dû venir avec ma loupe. Ça, c'est un des premiers signes de faux, de falsification. Quand on fait des économies sur le papier de la notice, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire comme économie sur les composants qui servent à fabriquer le produit.
Le minéral jusqu'ici, hein? Tu remets bien et puis tu donnes la cuillère là.
Quel danger on encourt si on consomme ces médicaments qu'on a analysés là?
Si vous avez des produits plus toxiques que le médicament normal, avec des teneurs en impuretés plus élevées, ou bien carrément avec des faux principes actifs, ou bien des principes actifs autres que celui qui est mentionné sur la boîte, Le consommateur s'expose à un risque maximum avec une atteinte organique, des intoxications médicamenteuses, de tout ce qui est organes nobles, les reins, le système nerveux, le système cardiovasculaire, etc. Et souvent, ça conduit à la mort.
Selon l'OMS, les faux médicaments causeraient 100 000 décès chaque année en Afrique. La nouvelle autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique doit aider à combattre ce fléau. Et la Côte d'Ivoire espère traiter le problème à la racine avec la mise en place cet automne de la couverture maladie universelle. L'un de ses avantages, la gratuité de certains médicaments.
Amandine Réau, en Côte d'Ivoire, pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le bruit du monde passe aussi sous les radars et ça donne ça. Et ce bruit, c'est celui de l'eau, l'eau qui ne cesse de tomber depuis des semaines. Nous sommes dans le Soudan du Sud, Estelle Schmitt, un phénomène exceptionnel qui aggrave encore la situation humanitaire de ce tout jeune pays.
Oui, les prévisionnistes ne sont pas vraiment optimistes, il devrait encore pleuvoir dans les semaines qui viennent, alors que c'est plutôt la saison sèche qui devrait commencer, du jamais vu depuis des décennies selon l'ONU, qui estime que près d'un million de Soudanais du Sud sont touchés, surtout dans le nord et dans le nord-est. Les ONG affirment que la pluie a déjà détruit 17 000 hectares de terre, au moins 20 000 tonnes de nourriture et tué des milliers de têtes de bétail. C'est sans doute pas terminé, donc de quoi s'alarmer quand on sait que largement plus de la moitié de la population souffre déjà de malnutrition. Et puis évidemment, la situation politique du Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, mais qui a sombré dans une guerre civile 2 ans plus tard, n'arrange rien. Difficile pour les humanitaires venir en aide aussi à la population, déjà parce que beaucoup de monde s'est réfugié dans les montagnes. Il faut les atteindre pour leur apporter de la nourriture ou des médicaments. Il y a peu de routes praticables et puis des centres de soins, des hôpitaux ont été inondés. Certains ne sont plus opérationnels, les patients ont dû être renvoyés chez eux. D'autres n'ont plus d'électricité, ce qui forcément pose problème pour certaines pathologies. Et la crainte, évidemment, à nouveau, des épidémies, paludisme, hépatite, et même le choléra qui avait pourtant totalement disparu du Soudan du Sud.
Allez, c'est plus joyeux, pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement. Cependant, Diwali, la fête des lumières hindoues, c'était dimanche.
Oui, le retour du souverain mythologique Rama dans sa ville d'Ayodhya. Mais en Inde, si ces images de toutes ces lumières sont magnifiques, eh ben Diwali, c'est également synonyme de pic de pollution, bougies, pétards, et on va l'entendre de feu. À New Delhi, c'est au quotidien l'une des capitales au monde où la qualité de l'air est des plus mauvaises. Eh ben hier, le ciel était complètement gris, plombé, des fumées très dangereuses pour la santé, avec des concentration de particules fines 40 fois supérieure au seuil que l'Organisation mondiale pour la santé recommande de ne pas dépasser. Alors pour limiter les dégâts, les autorités ont mis en place dans les jours qui viennent seulement la circulation alternée pour les véhicules, appelé à éviter les activités en extérieur, à consulter en cas de toux inhabituel. Et puis surtout, la Cour suprême indienne avait ordonné que seuls les pétards dits verts, c'est-à-dire 30% moins polluants que les autres, soient autorisés à la vente. Les autorités avaient même par endroit organisé des spectacles de lasers géants pour tenter de dissuader les Indiens d'allumer des feux, parce que c'est aussi l'un des problèmes, ça. Certains profitent de cette fête pour brûler leurs ordures sans se faire repérer. Alors cette année, il semblerait quand même que la pollution au poste d'Iwali soit un petit peu moins importante que les années précédentes. Pas vraiment grâce aux mesures mises en place par les autorités, selon les scientifiques, plutôt grâce au vent favorable qui aurait permis de dissiper les fumées plus rapidement.
Alors tiens, rien à voir, mais pour produire de l'énergie propre et limiter les pollutions en Finlande, les compagnies d'électricité se tournent vers une source jusqu'ici inexploitée.
Oui, des excréments d'animaux. Alors nous sommes au Helsinki International Horse Show, concours hippique international. Le saut d'obstacles qui se tient dans la capitale. Pendant les 4 jours de compétition, 100 tonnes de fumier ont été collectées puis incinérées dans une centrale électrique à une quarantaine de kilomètres de là. Et selon le producteur d'énergie qui a lancé ce projet, ces déjections ont généré 150 mégawatts, ça veut dire l'équivalent de ce qui a été consommé pendant le concours. Christa Elgrun, c'est l'une des responsables. Elle s'enthousiasme auprès de nos confrères de l'agence France Presse. Il y a tellement de chevaux en Finlande et bien sûr plus dans le monde, dit-elle, que ce serait incroyable si nous pouvions transformer toutes ces crottes en énergie.
Voilà qui dit.
Et voilà. Et le producteur d'énergie lui affirme que ces déjections quotidiennes de 2 chevaux, des déjections quotidiennes de 2 chevaux suffiraient à chauffer une maison pendant 1 an, toute une famille donc. Et puis aussi qu'il suffit de 200 millilitres d'excréments pour charger un téléphone portable. Et il n'y a pas que les chevaux, il y a les chiens aussi. Une autre compagnie d'électricité finlandaise a fait le pari des déjections animales. Elle espère même pouvoir se passer de charbon d'ici un petit peu plus de 2 ans.
Voilà, brancher notre portable à notre cheval, voilà qui nous ouvre quelques
c'est
belles
direct,
perspectives.
C'est écolo.
Merci beaucoup Estelle Schmitt. À demain évidemment à demain. Sous les radars. Julia Foy se prépare en écoutant Billie Eilish. All good girls go to hell. Toutes les jeunes filles très bien vont en enfer. C'est du sur mesure, Julia.
My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say.
I cannot do this snowflake.
J'adore cette fin, c'est génial. Billie Eilish, All Good Girls Go to Hell sur France Inter, mesdames, messieurs, et tout autre genre. Place, place, c'est Julia Foy qui passe.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec le hashtag de la semaine.
Let Noor run, laissez Noor courir. C'est l'appel qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux américains. Et Noor, c'est cette lycéenne de 16 ans qui vient de se voir disqualifiée d'une compétition sportive pour port de hijab. Ça fait 3 ans que la jeune athlète court dans l'état de l'Ohio avec un voile sur la tête sans que jamais ça n'ait posé de problème. Aux États-Unis, aucune loi n'interdit le voile ni aucun signe religieux. D'ailleurs, au nom de la liberté de croyance de chacun. Noor peut donc parfaitement le porter pour ce 5000 mètres de cross-country. Elle l'emporte haut la main, même battant son propre record. La performance est belle, mais la joie ne dure pas. À peine la ligne d'arrivée franchie, elle apprend que son chrono ne sera pas pris en compte. Elle aurait dû, lui explique-t-on, obtenir au préalable une dérogation lui permettant de courir voilée. Surprise, choquée, Noor poste un message sur Facebook où elle dit sa colère, sa tristesse, ses interrogations. Pourquoi devrais-je sacrifier ma religion et une part de moi-même pour avoir le droit de pratiquer une activité qui me passionne. Questionnement soutenu, relayé par un certain nombre de femmes politiques, dont Elizabeth Warren. Les élèves musulmans ne devraient jamais être exclus des activités scolaires, vient de déclarer la sénatrice démocrate.
Elle nous parle un tout petit peu de
ça. Ouais, voilà, c'est pas vous Fabienne, mais tout à coup, il y a comme un drôle d'écho hein, dans l'oreille. Vous vous souvenez du tollé provoqué par Decathlon en février dernier hein, la marque avait voulu commercialiser en France un hijab conçu pour la course à pied. Scandale, il est vite retiré de la vente. L'affaire fait du bruit jusqu'aux États-Unis où l'on parle à ce moment-là d'obsession française contre le voile. Il faut croire qu'en quelques mois, l'obsession est devenue contagieuse.
Allez, on continue avec l'image de la semaine.
Sous les flashs des photographes et les applaudissements de la foule, elles s'étreignent, elles s'embrassent, manifestement heureuses et amoureuses. La scène se passe à Bogota dimanche soir. Plus qu'improbable, elle est historique et ce, à plus d'un titre. D'abord parce que la capitale colombienne, traditionnellement conservatrice, vient tout juste de basculer à gauche. C'est la candidate écologiste Claudia Lopez qui remporte la mairie. Et oui, donc c'est une femme et c'est la première fois dans l'histoire de la ville. Sauf que cette femme, en plus, est lesbienne et ne s'en cache pas. D'où ce baiser fougueux donné à l'issue du scrutin le plus joyeusement et le plus naturellement du monde à sa compagne, Angélica Lozano. Avocate, militante LGBT, celle-ci est elle-même depuis 2018 la première sénatrice colombienne ouvertement homosexuelle. Quand je vous dis qu'elle fera date, cette photo, elle n'est pas sans rappeler, cela dit, une image datant de l'hiver dernier. On est à Chicago, souvenez-vous, Lori Lightfoot, femme, noire et homosexuelle, vient de remporter les clés de la ville. Elle aussi embrasse sa compagne à la tribune et leur photo, là encore, fait le tour des réseaux sociaux. Alors je sais, Fabienne, deux mairies, même importantes, ça ne nous fait pas la révolution arc-en-ciel. Hein. Le concours de testostérone dans les lieux de pouvoir, ça marche encore et même très fort, mais au milieu de tous ces mâles alpha qui se tirent la bourre à coups de « c'est moi qui ai la plus grosse mèche et c'est toi qui as la femme la plus moche », disons que c'est le petit vent de fraîcheur qui fait du bien.
Hein. Allez, on termine avec le tacle de la semaine.
Et on le doit à une humoriste américaine, Kelly Bachman. Elle fait son numéro de stand-up habituel sur une scène ouverte new-yorkaise. Comme le veut l'exercice, elle interpelle le public, s'amuse avec lui, joue, relance, improvise, charrie. Sauf que, balayant la salle du regard, elle s'arrête net devant cet homme massif, ombrageux, petits yeux enfoncés dans visage buriné. Si je vous dis 93 plaintes pour agression, viol ou harcèlement, vous me dites Harvey Weinstein, évidemment, qui pensait pouvoir passer une soirée pépouze entre amis comme avant, à deux mois de son procès perdu.
C'est notre job de nommer l'éléphant qui est dans la salle. Savez-vous de qui il s'agit? Oui, c'est le Freddy Krueger de la salle, si vous voulez. Je ne savais pas qu'on devait apporter son propre gaz lacrymogène et son sifflet anti-viol à l'Actors Hour.
Aïe, 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 ça pique, hein, Harvey. Les temps changent, Fabienne, quand on pense qu'il y a quoi. Allez, même pas deux ans, il aurait pu la violer peinard, la petite greluche, là.
Allez, hein, les temps changent, mais pas vous. Julia Foyce.
Jamais.
Et vous revenez mardi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers. Et Franck Madvon, on l'a dit, Franck, on l'a beaucoup répété depuis la dernière offensive turque dans le nord de la Syrie. Les États-Unis ont abandonné leurs alliés kurdes syriens. Ce week-end, l'opération contre Abu Bakr el-Baghdadi a montré que Washington était allé très loin dans la trahison. Les Kurdes ont été humiliés par l'administration Trump et pourtant... Et pourtant, ils n'ont pas coupé les liens avec les Américains et c'est votre monde à l'envers, Franck.
Ouais, alors si vous doutez encore, Fabienne, de la trahison des Kurdes syriens par les États-Unis, les coulisses du raid contre Baghdadi devraient vous convaincre. Car les Kurdes ont joué un rôle essentiel dans l'élimination du chef du groupe État islamique. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les Américains. Les États-Unis se sont d'abord appuyés sur les services de sécurité irakiens pour localiser Abu Bakr el-Baghdadi. Quand ils ont eu l'assurance qu'il se trouvait à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, ils ont fait appel à qui ? À leurs alliés kurdes. Les Kurdes syriens ont envoyé des espions pour surveiller la maison où Baghdadi était réfugié. Un de leurs informateurs infiltrés a même récupéré un sous-vêtement du chef djihadiste. On a les détails, hein. C'était un caleçon long de couleur blanche. Je vous laisse imaginer, Fabienne, l'ennemi public numéro un dans cette tenue. C'est ainsi en tout cas que son ADN a été identifié. Les Kurdes ont donc risqué leur vie pour offrir à Donald Trump l'une de ses plus grandes victoires sur la scène internationale. Sans eux, Baghdadi serait peut-être encore en vie.
Et pendant ce temps, donc, les Américains abandonnaient les Kurdes en face de la Turquie.
Oui, alors on connaît l'histoire. D'abord, ce coup de fil le 6 octobre entre Trump et le président turc Erdogan. L'Américain annonce le retrait de ses troupes de Syrie et donne son feu vert à une offensive turque dans le nord syrien. Pour la Turquie, les forces kurdes sont des terroristes liés au PKK, mouvement séparatiste qui a fait des milliers de morts dans le pays. Il faut les repousser loin des frontières. Les Kurdes ne comprennent pas, voilà 5 ans qu'ils se battent contre le groupe État islamique, pour les Occidentaux. 11 000 combattants environ des forces démocratiques syriennes, majoritairement kurdes, sont morts ces dernières années en Syrie contre seulement une poignée de soldats américains. Un responsable du Pentagone admet dans le New York Times « On a sous-traité nos morts aux Kurdes ». Alors, il y a certes des atermoiements à Washington. Trump a annoncé à la fin de l'an dernier déjà le retrait des troupes américaines de Syrie, mais cette annonce avait provoqué un tollé et finalement plus de 1000 soldats étaient restés. Alors pourquoi changer d'avis maintenant ? Eh bien, Trump en a décidé ainsi. Voilà donc les Kurdes syriens seuls face aux Turcs. Le régime de Bachar al-Assad et la Russie se déploient dans la zone, ils en profitent. Et c'est même le russe Poutine qui scelle le sort des Kurdes avec Erdogan la semaine dernière. Les Kurdes syriens n'ont d'autre choix que de se retirer à une trentaine de kilomètres de la frontière turque. Un retrait confirmé cet après-midi même par Moscou.
Mais alors, malgré tout, c'est ce que vous disiez, Franck, les Kurdes n'ont pas tourné le dos à Washington.
Oui, alors ça semble absurde hein, dans ces conditions, mais c'est bien le cas. À vrai dire, les Kurdes n'ont pas le choix. Ils sont cernés par leur ennemi turc, par la Syrie et ses alliés, la Russie et l'Iran. Et ils continuent à susciter une certaine méfiance des Occidentaux. Il faut rappeler que le PYD, le parti des Kurdes syriens, est effectivement lié au PKK, considéré comme terroriste par la Turquie, mais aussi par les États-Unis et l'UE. Mazloum Abdi, le commandant en chef des forces démocratiques syriennes, est un ancien cadre du PKK. Les Kurdes ont donc tout intérêt à maintenir ouverts les canaux de communication avec Washington, ce qui leur donne un peu de légitimité, ou ce qu'il en reste. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas totalement abandonné les Kurdes. Ils ont finalement laissé plusieurs centaines de soldats en Syrie, entre 500 et 800 selon les sources. Comme souvent, c'est intéressé hein, avec Washington, ils veulent protéger les gisements de pétrole du nord-est syrien, mais les Kurdes peuvent aussi conserver une partie de leur territoire. Et puis ils ont encore des alliés à Washington, des élus, démocrates et républicains, mais aussi des responsables militaires au Pentagone. Le chef kurde Mazloum Abdi a pu parler deux fois à Donald Trump au téléphone. Il pourrait même lui rendre visite bientôt à la Maison-Blanche, on en discute actuellement, ou comment tenter de sauver la face après avoir bu le calice jusqu'à la lie.
Le Monde à l'envers, signé Franck Madvon ce soir. Merci beaucoup Franck, on se retrouve demain, ici même. Nous, on reste ensemble pour Le Téléphone Sonne, comme chaque soir. Juste avant, il y a le journal de Sébastien Paour. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous. Le 18-20, deuxième heure, commence juste après ça.